met les joueurs au bon poste et ça marche très très bien. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Skoras, on l'enlève plus, hein. Je veux rien savoir, hein. Il reste dans l'équipe, hein.
Sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un bonheur d'être avec vous comme chaque semaine, comme chaque mardi. C'est votre petit rendez-vous, c'est votre petite Madeleine. Forcément, le football belge est de retour dans le Clubhouse. Et à ses côtés, évidemment, ses chroniqueurs aussi piquants que délicieux. Xavier, comment ça va ?
Oh, ça va pas mal aujourd'hui, je suis content d'être de retour aujourd'hui.
Moi aussi, je suis content de te voir avec une nouvelle coupe.
Ouais, comme quoi, il faut du changement de temps en temps, tu vois.
Il est frais, le frère. Voilà. Il est frais. Ouais, ça y est, ça te dégage.
Une semaine d'absence, j'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur et
yes.
Tout, tu vois, je suis là.
Ça lui va bien, en vrai. Ouais. Moi, je trouve ça lui va mieux.
Bonjour, ouais, Thomas, ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Comment ça va, mon Thomas ?
Bien, bien, j'ai remis la veste, le pull, parce que là, on est repassé à 4 degrés alors qu'on était à 24 samedi.
Ouais,
donc,
c'est ça.
J'ai remis la grosse veste.
Il faut avoir un sacré fonctionnement immunitaire en Belgique pour tenir.
C'est l'enfer.
C'est un peu compliqué. Thomas, on le rappelle, tu travailles pour la Ligue 1, mais tu travailles aussi pour la Pro League désormais.
Exact.
Félicitations.
Depuis,
voilà. Tu augmentes semaines. Le niveau d'expertise dans le Clubhouse. Voilà.
Ouais. Enfin, moi, j'adore la Pro League. C'est l'amour de ma vie de base. Donc, j'ai toujours voulu travailler en Pro League. Bon, j'ai eu l'opportunité de travailler en Ligue 1. Non, je peux combiner les deux. Donc, moi, je suis content. Je suis refait.
Ouais, c'est magnifique. Bah, c'est superbe. T'imagines, tu vas avoir un programme assez complet, aussi chargé le week-end. Et puis après, derrière, la semaine avec nous dans le Clubhouse où tu donnes toutes tes analyses. Et tu le fais d'ailleurs très, très bien. Et on est là pour ça. On compte sur toi aujourd'hui parce que on a un invité incroyable. Aujourd'hui, il nous vient de Paris. Et oui, il a fait le chemin pour venir dans le Clubhouse. C'est un honneur de fou. Francis Nganga, l'ancien joueur du Sporting Charleroi, est parmi nous. Mon Francis, comment ça va ?
Ça va, merci, très bien.
C'est un bonheur. Je suis super content que tu sois là, vraiment. Bienvenue.
Merci beaucoup, après quelques heures de route.
T'as ton petit café.
D'avoir été accueilli à merveille avec le petit café et un endroit chaleureux, avec des personnes chaleureuses, ça fait plaisir. Ces heures de route pour l'émission.
Ben oui, forcément. On n'est pas toujours facilité par les ennuis de trafic, mais au moins tu es là. C'est déjà ça le plus important. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Francis Nganga, c'est quoi ? Ben évidemment, c'est 170 matchs avec le Sporting Charleroi, 2 buts, 9 passes décisives. Passé du Sporting Charleroi de 2012 à 2018, il a connu les grandes époques, les grands moments du Sporting Charleroi, notamment des rencontres européennes. La dernière, on en a parlé ensemble, c'était face au Zorya Louhansk, c'est ça ?
C'est ça, face au Zorya Louhansk.
Il y avait un certain Malinovski.
Un certain Malinovski, gaucher, très bon joueur, qui nous avait fait très très mal sur les deux rencontres, sur les matchs aller-retour. Et Genk je pense que l'a repéré à ce match-là, et l'a acheté. Et ça a été aussi un très 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 bel achat pour eux, parce qu'après ils ont fait aussi une revente derrière et... C'est vraiment un bon joueur.
Alors, on l'a dit, de 2012 à 2018, Francis, tu as fait 170 matchs avec le 170 matchs. Il y a des Français, évidemment, parce que je me doute qu'il y a aussi des Français qui vont nous écouter et nous regarder.
On est en Belgique, donc 170.
On dit 170.
On 170.
T'as l'habitude avec les 170 et tout, t'es
oui,
pas gêné.
Non, on est habitué. 6 ans et demi. 6 ans et demi. La Belgique, c'est mon deuxième pays, donc 170, 190, il n'y a pas de souci.
C'est quoi ton meilleur souvenir avec Charleroi ?
Avec Charleroi, je pense la première fois qu'on se qualifie en play-off 1, parce que ça a été vraiment historique. Et ensuite, derrière aussi, il y a eu aussi un beau souvenir qui a été aussi la qualification européenne. Donc ça fait partie de mes meilleurs souvenirs au Sporting Charleroi.
Mmh. On en a discuté ensemble, on a parlé du niveau du championnat. Et toi, quand tu m'as dit, un petit peu en amont, quelques jours avant l'émission, j'étais un peu étonné, tu m'as dit, le niveau du championnat de Belgique était meilleur quand j'étais joueur que celui que je vois maintenant. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu entends par là ? C'est intéressant.
En fait, je pense qu'il y avait plus de grosses équipes avant, à l'époque. Par exemple, aujourd'hui, ça va pas leur plaire, mais le Standard de Liège n'est pas là. Il n'est pas dans le haut du classement, alors que le Standard de Liège est une grosse cylindrée du championnat. Donc, à l'époque, quand... ont joué les hauts tableaux avec le Sporting de Charleroi. Donc il y avait le Standard de Liège, il y avait Anderlecht, Bruges, Genk, Gand, toutes ces équipes-là. Une équipe comme Zulte Waregem était aussi une très très grosse équipe à l'époque. Donc je pense qu'avant il y avait beaucoup plus de grosses équipes qu'aujourd'hui. Après, les équipes du haut ont toujours ce très très bon niveau qui favorise les playoffs 1. Mais à l'époque, c'était, je pense, beaucoup plus dur de se qualifier en playoff 1 qu'aujourd'hui.
Alors, je vais avoir besoin de l'aide de mes experts là sur cette question, c'est important. Thomas, que penses-tu de ce que nous explique Francis ? Est-ce que tu penses que le niveau a décliné ou alors il s'est justement amélioré ?
Ah non, il s'est amélioré. Mais par contre, je suis un peu d'accord, parce qu'au début, quand il a dit ça, il y a moins de grosses équipes, je me suis dit, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là ? Mais après, c'est vrai qu'au final, quand tu dis, par exemple, quand tu donnes l'exemple des victoires à game ou Charleroi, par exemple, c'est le type d'équipe qu'on n'a plus forcément aujourd'hui, le top 6 actuel en Belgique. Bon, si on enlève le cercle et qu'on le remplace par Gand, c'est les 6 grosses équipes du championnat, mais c'est 6 équipes qui sont quasiment au même niveau, qui ont le même niveau, mais t'as plus, il y a plus une équipe qui se rapproche de ce niveau-là, si ce n'est le cercle aujourd'hui, peut-être Malines, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus difficile de se qualifier avant au play-off qu'aujourd'hui, ça je suis d'accord.
Et j'ai oublié Courtrai aussi, qui était une belle équipe à l'époque.
Ouais.
Au stand aussi,
qui était une très belle équipe.
Tu dis qu'ils sont en train de, voilà. Regarde, Charleroi, Courtrai,
on avait à peu près, il y avait 7, 8, 9 équipes, ouais. 10 équipes qui étaient capables d'aller en play-off 1. Aujourd'hui, ça se dessine à peu près, on sait à peu près qui, les 6 plus gros, quoi.
Après, ici, quand tu vois, je suis plus ou moins d'accord avec vous, de manière générale, mais quand on voit ici, quand même, la dernière journée de championnat, on savait pas qui allait être le 6e en playoff 1. Ça aurait pu être Gand, ça aurait pu être Malines. Donc, ça fait déjà 8 équipes. Enfin, au final, on a quand même aussi, 8, 9 équipes qui se battent pour, la 5, 6e dernière, enfin, les deux dernières places, qualificatives pour les playoff 1, toi. Donc, là aussi, t'avais quand même, parce que par exemple, avant, t'avais le Standard qui était, enfin, en 2018, tout ça, il était mieux, mais, t'avais pas l'Antwerp, donc au final, t'en enlèves un, t'en rajoutes un, par exemple, tu vois. T'avais pas l'Union non plus, je pense que c'est aussi par cycle, tu vois. Il y a des équipes qui, voilà, des équipes qui sont toujours au top, comme plus ou moins Anderlecht, Brugge, tout ça. Et t'as d'autres équipes comme le Standard ou autre, ben, c'est plus des cycles. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression qu'il y a moins de grosses équipes maintenant, mais elles ont été remplacées par d'autres, tu vois.
Là où je rejoins, Francis, c'est que pour moi, le niveau des individualités, je pense que les collectifs sont plus forts, mais les individualités étaient plus fortes à ton époque.
Ça, c'est sûr, certain.
C'est clair que quand tu jouais Bruges et que tu avais d'un côté Libombé et l'autre côté Izquierdo, c'est clair que c'était vraiment très, 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 très fort.
Ouais. C'était vraiment très, très fort. C'est qui votre buteur à l'époque ? C'était Perbé ou c'était pas
On a eu Perbé, on a eu Arbaoui.
C'est des individualités. Hein.
Voilà, c'est des gros buteurs. Quoi. Perbé, je sais pas si quelqu'un va le dépasser encore avec le nombre de buts qu'il a mis. Arbaoui, c'est la même chose, Amdi. Il y avait Paulet. C'était des...
La seule personne qui a dépassé dans l'histoire du Sporting Charleroi Jérémy Perbé en termes de buts, c'est Dante Brogno. C'est le meilleur buteur de l'histoire. Donc, t'imagines un peu le parcours qu'a réalisé Jérémy Perbé, qui est encore un infamé. C'est-à-dire qu'à 39 ans, il était à Wickelsport. Là, maintenant, il va signer à Rousselaar. Il continue à vouloir jouer au football. Il va avoir 40 piges. Toi, t'as arrêté il y a 4 ans.
Moi, j'ai arrêté il y a 4 ans. Mais Jérémy, c'est un infamé du but. Jérémy, il faut qu'il marque. Il faut qu'il marque. Même si tu le mets dans un five ou quoi que ce soit, il joue dans son jardin. Lui, c'est le but. C'est marquer des buts et c'est sa vie, quoi. C'était ça qu'il résumait sur le terrain. Il voulait que marquer. Et je me souviens qu'à l'époque, quand on jouait avec Jérémy en pointe, l'objectif, c'était de le chercher parce qu'on savait qu'à tout moment, il allait être redoutable pour les équipes adverses.
Mais tu sais qu'il y a des profils comme toi. Alors, je parle un peu de ma vie, mais j'ai eu l'occasion de, et je le ferai d'ailleurs aussi au retour, de commenter le match entre Bruges et le PAOK, et on en a parlé. Il y a un profil qui ressemble beaucoup au tien qui s'appelle Baba Abdulrahman, qui est un ancien joueur de Chelsea. Et vraiment, quand je voyais ses mouvements, etc., je me disais, alors j'en parlais avec toi, et après, ce matin notamment, j'y ai pensé, je me dis, mais il n'y a pas des profils comme ça, petit ailier vraiment très trapu, capable d'aller faire tout le couloir avec une grosse puissance. Maintenant, même sur les côtés, on cherche des grands. Tu vois ce que je veux dire ? On va aller chercher des joueurs plus athlétiques, etc. Alors que toi, par exemple, tu avais une très belle détente, tu étais capable d'aller siphonner tout le couloir. Je pense qu'à ce moment-là, tu pouvais jouer en défense à 4 comme une défense à 3, donc tu avais cette polyvalence-là aussi. Est-ce que tu penses que les demandes des clubs aujourd'hui concernant justement la position du latéral gauche, elle a vraiment évolué ?
En fait, c'est pas que sur la position du latéral gauche, je pense que c'est sur la position de tous les joueurs. Aujourd'hui, on a un format type pour chaque joueur à un poste. C'est-à-dire que si tu as un central qui est petit, il ne peut pas jouer central. Alors que nous, on a joué avec Javi Martos pendant tant de saisons. Il faisait partie de l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat. Mm-hmm. Il a ma taille. Hein.
Ouais.
Il était juste intelligent, il savait se placer, il savait communiquer aussi par rapport à sa défense. Il avait une bonne relance aussi et il allait quand même aussi assez vite. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle politique de recrutement, c'est-à-dire les datas, on cherche beaucoup plus des profils types à chaque poste. Donc, ce qui fait que peut-être il y a certains profils qu'on va plus revoir à certains postes, mais qui pourraient être aussi efficaces que d'autres. Donc, je pense qu'il faut avoir plus une ouverture d'esprit peut-être sur le recrutement par rapport à cela. Après, ça, c'est que mon avis, mon point de vue. Il y en a qui réussissent en faisant comme ça et d'autres pas. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est une question d'adaptation en fait.
Et vu de France, tu le sens la différence d'engouement dans le championnat pour le championnat de Belgique. Alors, moi, évidemment, je peux en attester. Il y a vraiment une grosse différence parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment, permettent directement un lien très rapide. Quand un joueur est très bon, il y a une hype qui se crée automatiquement. Puis il y a aussi la langue hein, qui crée forcément cette proximité entre les deux pays. Mais toi, sur le terrain, vraiment. Par rapport à ton époque, ce que toi, tu as vécu de OK, ce que les Français pensaient du championnat de Belgique quand toi, tu y étais, et maintenant, comment tu le vis, il y a une espèce de résonance ou pas?
Bien sûr, aujourd'hui, il le respecte plus. Déjà, à l'époque, déjà, c'était déjà un bon championnat. Aujourd'hui, il est plus respecté. Pourquoi? Parce qu'il est plus médiatisé, on voit plus qu'il y a de la qualité dans le championnat. Bon, il y a toujours eu de la qualité dans ce championnat, mais par exemple, une émission comme la vôtre aujourd'hui, c'est aussi une visibilité aussi pour le championnat de Belgique. Donc c'est bien qu'il y ait des émissions comme ça, que l'on puisse mettre en avant aussi le championnat de Belgique et montrer qu'en Belgique il y a des très bons joueurs. Et quand on voit aussi la majorité des joueurs qui partent du championnat de Belgique dans les autres championnats, la plupart y réussissent.
Ouais, clairement, c'est vrai.
En ce moment, la plupart réussissent.
Surtout ces dernières années, je trouve que il y a plus ce fossé, ce gap, genre en mode. Par exemple, Boniface, qui aurait cru qu'il aurait été aussi fort à Leverkusen, même s'il était incroyable à l'Union. Mais il y a plus on remarque même pas la différence, je trouve. C'est ça qui est beau.
Moi, ce qui me marque surtout, c'est Teddy Thomas. Qui a galéré en national, en France, qui ensuite a dû quitter la France pour aller à l'Union Saint-Gilloise au moment où l'Union Saint-Gilloise était en deuxième division, en Ligue 2 Belge, on peut appeler ça comme ça. Ouais. On se rappelle aujourd'hui ici la Challenger Pro League. Et maintenant, il est quasiment en train de marcher sur l'eau à Reims, et c'est un des joueurs les plus importants dans le cœur du jeu. Quand on voit aussi la saison qu'il avait faite, et le remplaçant aujourd'hui à l'Union Saint-Gilloise d'un Teddy Thomas en la personne de Cameron Pertas, on se dit que forcément, le championnat de Belgique a aussi de beaux jours devant lui, quoi. C'est un peu ça, Francis.
Le championnat de Belgique a des très beaux jours devant lui, et je pense que le championnat de Belgique est en train de progresser d'année en année. Parce qu'il y a vraiment des très bons joueurs en Belgique. Aussi, quand on voit l'équipe nationale, il y a une très belle équipe nationale avec des très, très bons joueurs. Et moi, j'encourage à ce que la Belgique continue à travailler dans ce sens-là parce qu'ils commencent à rattraper beaucoup de championnats. Mmh. Et aussi, on peut le voir aussi en Coupe d'Europe. Quoi. Coupe d'Europe, avec l'Union qui avait fait un super parcours l'année dernière. Bruges encore, qui est encore en lice cette saison.
Tu pourrais être demi-finaliste de conférence.
Voilà, qui est bien. Donc, franchement.
Il y a de l'intérêt.
Il y a de l'intérêt. Il y a des beaux jours pour la Belgique. C'est très, très bien.
C'est génial. Et donc, forcément, pour parler de tout ça, on va foncer pour vous, pour votre parole de supporter. C'est le moment. On a demandé à la communauté de parler d'un club bien précis, le Standard de Liège. Évidemment, on a plein de réactions, puisqu'on nous a posé une question très, très simple. Qu'attendez-vous encore du Standard de Liège d'ici la fin de saison? Qu'est-ce que le RSCL devrait faire pour vous donner de l'espoir l'année prochaine? Bon, Francis, on va commencer avec le club ennemi. Hein. Après, on ira sur Charleroi, ne m'en veux pas. On va lire les réactions, forcément, qui sont les vôtres que vous nous avez données. Alors, on démarre avec Noxalo, qui nous parle d'abord, forcément, qu'est-ce qu'il attend du Standard de Liège d'ici la fin de saison? Il me dit, des transferts avant le stage d'été, garder l'écho, mais changer les deux adjoints, faire un gros ménage dans les joueurs du style De Waal, Perica, etc., quitte à avoir un banc fort jeune. Et puis, pour terminer, le plus important, remettre la musique, hey baby, sur les goals. Voilà, c'est déjà un bon programme,
ouais.
Thomas.
C'est déjà assez chargé, oui, en effet. Mais je suis complètement d'accord avec lui par rapport aux joueurs style Perica, même si Perica, je suis convaincu, c'est un bon attaquant, mais il n'arrive pas à trouver son chemin du côté du Standard. les joueurs comme Dehaal, etc., s'ils n'ont pas le niveau, c'est vrai que le processus de recrutement doit être complètement différent. Mais ce que moi j'attends surtout du Standard, c'est que justement ils donnent la chance aux jeunes. Là, on en a parlé juste avant, des polos qui va potentiellement être titulaire lors de ces playoffs. Donc, c'est plutôt intéressant, sachant que Bodar part et enfin
devrait partir.
Et tu es bien placé pour
en parler. Pour le moment, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'intérêt non plus de Glasgow Rangers.
T'en parleras dans Wait and See. Voilà, c'est un autre sujet.
Ouais.
Mais non, après, j'espère que Tchanak aussi continuera à recevoir sa chance, mais à son bon poste. Ce serait intéressant aussi à voir. Et oui, que l'écho reste et qu'ils mettent en place son système pour la saison prochaine.
Alors, Gilou nous dit virer Fergal Harkin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut virer Fergal Harkin, Xavier?
Non, pas forcément, parce qu'il n'a pas forcément eu beaucoup de temps pour travailler non plus. Ça fait qu'un an et demi, plus ou moins, qu'il est là.
Bah oui.
C'est quand même un long processus. Je pense qu'il y a quand même du mieux par rapport à avant, quand il n'était pas là. Moi, ce que je me demande surtout, c'est peut-être un peu plus de cohérence et vraiment savoir ce qu'ils ont envie de faire, le Standard. Parce que quand tu vois le match ce week-end, tu te demandes s'ils ont vraiment envie de gagner, quoi, toi.
Oui, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que dit Jonathan Mine, qui abonde dans ton sens, qui dit: pour cette fin de saison, j'attends au minimum une mentalité exemplaire et de l'envie lors de chaque match. En ce qui concerne l'année prochaine, seuls des actes concrets et les décisions fortes dans les semaines à venir pourront entretenir ce mince espoir de jours meilleurs. Je trouve ça intéressant, donc j'ai voulu aller plus loin avec lui et je lui ai demandé: est-ce que tu crois en Ivan Leko et quel serait justement le principal manque dans le jeu du Standard? Et il me répond: je crois en lui, j'aime surtout sa rigueur et je sens qu'il y a un mieux dans l'animation en général. Je pense que ce groupe et ce club ont besoin de structure et de rigueur. Il y a un manque d'expérience et de qualité pour espérer jouer le haut du tableau, selon moi. Xavier?
Bah moi, comme je dis, Leko, je trouve que c'est un bon entraîneur, comme il le dit aussi. Mais il y a des fois, je me demande, est-ce qu'il est obligé de les faire par rapport à des clauses de contrat ou autre? Mais par exemple, ici, on prend l'exemple de ce match auquel il gagne 3 ou 2 à ce moment, au moment des changements au Standard. Tout se passe bien, tout est sous contrôle et tout. Et il fait rentrer Sowa qui, dans un mois, il retourne au club de Bruges. Donc, enfin, si tu veux préparer l'avenir, pourquoi tu le fais rentrer alors que tout se passe bien sur l'équipe?
C'est clair.
Il fait rentrer son prénom, je ne sais plus, mais Fini, le jeune du Genoa. Peut-être juste pour avoir du temps de jeu, parce qu'il est obligé de lui donner du temps de jeu. Mais encore une fois, c'est deux changements pour des gars qui retournent dans un mois dans leur club, alors que tout est sous contrôle, ils rentrent, tu prends 3-3.
Ouais,
enfin, un niveau cohérent, ça que je me demande, est-ce qu'ils s'en foutent vraiment de prendre des points en playoff 1? C'est juste donner du temps de jeu au vent? Ou bien est-ce que tu veux quand même, tu as un peu d'amour propre, et ok, on est quand même là, on peut pas jouer l'Europe, mais on va quand même aller chercher des victoires, quoi.
Ouais, Francis, c'est compliqué quand on est dans ces fameux playoff 2, qu'on les joue, mais que quelque part on a plus rien à gagner, plus rien à perdre, qu'on doit garder la motivation, aller s'entraîner chaque semaine, avoir une longue semaine de préparation, les entraînements au quotidien, ça va être lourd.
C'est lourd. Nous, on a eu la chance d'avoir des groupes qui voulaient tout le temps gagner les playoffs 2, qui voulaient faire des... On a fait, je pense, pendant ma présence à Charleroi, deux fois, je pense, les playoffs 2, et on a réussi à les gagner et à aller jouer contre une équipe des playoffs 1. Mais les playoffs 2, c'est dur. C'est très, très dur. Il faut vraiment avoir le groupe qui accepte de les jouer, qui n'est pas en vacances. Et ça, il faut que le groupe, je pense, vive bien. Et c'est pas tous les groupes de playoff 2 qui vivent bien, parce qu'il y a beaucoup de joueurs des fois qui sont en fin de contrat ou bien qui retournent dans leur club qui sont en prêt, donc c'est compliqué de composer avec tout ça.
Alors globalement, la rencontre en tant que telle, elle était bonne du Standard. Le seul truc, c'est que moi j'ai été à mon téléphone à 3-1 en pensant que le Standard allait gagner, et puis je me suis réveillé flash score 3-3. Ouais. À un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Comment est-ce que dans la mentalité, on peut pas tenir un résultat pareil? D'autant que tout à l'heure Xavier l'a dit, un Tchian Tchanak par exemple est bon dans le match, il est capable, il montre et il est performant. Kanga fait son travail de numéro 9, il est présent également. Donc il y a des joueurs qui à un moment donné prouve qu'ils ont leur place, savent le faire.
Ouais, clairement, mais moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait une certaine envie quand même de remporter ce match. Je sais pas à quel moment
peut-être pour les joueurs, moi je trouve, en fait, je comprends pas, c'est pourquoi tu fais des changements.
Oui, à ce moment-là,
je
suis d'accord.
Tu vas pas dire que Tchanak ou Kanga, ils savent pas jouer 10 minutes de plus.
Non, ça c'est sûr. Mais je trouve qu'il y avait quand même une certaine envie de remporter ce match. Tu marques pas 3 buts sans vouloir pas gagner le match. C'est vrai que les changements posent question, c'est clair. Mais après, les ambitions des deux clubs sont complètement différentes aussi. C'est comme il disait Francis, c'est difficile d'accéder à la première place des playoffs parce qu'il y a des clubs qui ont pu... Enfin, le retard de points est tellement énorme qu'ils ne peuvent même plus espérer atteindre cette place qui pourrait potentiellement les mener à l'Europe. Donc à quoi bon, comme Louvain, bon, Louvain a gagné contre l'Aventin, je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs, ouais. Mais et le Standard qui fait match nul contre Saint-Tron. C'est vrai que c'est quand même assez spécial, les playoffs c'est vraiment très compliqué, très difficile à prédire. Déjà qu'on a du mal avec les Champions Playoffs, mais si on doit commencer à prédire les Europe Playoffs,
c'est compliqué.
C'est très compliqué.
Ouais, parce que dans la compétition des Europe Playoffs aujourd'hui, le Standard n'est plus du tout dans la course.
Ah oui, c'est ça, comme Louvain. Ouais. C'est ça. Donc c'est pour ça que je comprends pas comment Louvain ait pu gagner contre la Gantoise alors que, bon, après, franchement, la Gantoise, ils ont pas eu beaucoup de chance parce qu'ils devaient gagner 40 fois le match, ils ont eu plein d'occasions. Mais c'est très difficile à prédire ces playoffs-là, c'est très compliqué.
Ouais, c'est très très compliqué. On va lire une dernière réaction. Si vous réagissez, c'est bien. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On va lire Jordan RSCL7 qui nous dit: Jordan, j'attends pas grand chose dans le jeu, surtout dans la mentalité des jeunes qui ont envie de se donner pour le club et pour la saison prochaine. En ce qui concerne ceux qui ne seront pas présents la saison prochaine, juste un peu de professionnalisme et d'envie, rien de plus. Est-ce que vous voyez Arnaud Bodard venir faire, tout à l'heure tu parlais de Mathieu Epolo, est-ce que vous voyez Arnaud Bodard venir faire un petit peu la lutte auprès d'Ivan Leko en disant: non mais moi j'ai quand même un transfert à aller jouer, faut quand même que je me mette en avant, potentiellement je peux être le numéro 3 s'il y a une blessure et donc aller à l'Euro, j'ai quand même envie de les jouer ces matchs, Xavier.
Ouais, c'est parce que pour lui c'est quand même important de les jouer, surtout que il aimerait bien partir, mais c'est pas le premier mercato où il veut partir, ouais. Et qu'il n'y a pas d'offre, donc ça tombe l'année prochaine il est peut-être encore là aussi, donc même si tu joues plus rien, bah, t'es quand même professionnel. Comme tu dis, il y a l'Euro à aller chercher ou autre. C'est peut-être le meilleur joueur du Standard cette année. Et puis quand tu vois le nombre de fois qu'il a été élu homme du match sur la saison, c'est peut-être la moitié des matchs. Donc je pense qu'en plus, pourquoi il y a 5 matchs, ouais, peut-être 6. Ouais. Enfin, il ne reste pas beaucoup. Ok, si tu veux peut-être faire plaisir à Epolo, tu le fais jouer le dernier match ou les deux derniers. Alors, mais je pense que pour le moment, Bodard doit rester à son poste.
Bah, je pense pas que c'est pour le faire plaisir quand même. C'est pour le préparer à la saison prochaine.
Sachant ouais, que si Bodard va partir. Mais ça fait combien de mercato qu'il doit partir et qu'il part pas?
Ouais, parce qu'Epolo a quand même montré avec l'SLCS qu'il avait le niveau. Hein. Moi, j'adore ce gardien. Il est très très bon. Donc moi, je pense que c'est plutôt pour le préparer. Parce que Bodard, je pense qu'il va partir. Mais il avait pas une offre, Bodard, à Toulouse l'été dernier?
Non, il n'y avait pas d'offre okay. À Toulouse du tout, non, absolument pas. Il y avait un intérêt en fait auprès du Racing Strasbourg qui effectivement s'était renseigné par l'intermédiaire de Loïc Désiré, son agent en fait avait proposé son dossier et derrière le dossier n'avait pas suivi tout simplement parce qu'ils avaient décidé de mettre la priorité à Alain Bellarouche, le numéro 2 derrière Matzels à ce moment-là. Aujourd'hui, Alain Bellarouche est titulaire du côté de Strasbourg et ça se passe plutôt bien.
Il fait très bien son boulot.
Voilà, le choix de Loïc Désiré a été le bon à ce moment-là. Francis, t'as déjà eu ces moments-là où tu veux partir, tu le sens, il y a peut-être une opportunité, tu sens qu'il y a quand même des intérêts, ou en tout cas tes agents t'en parlent et tout, et tu te dis: ah, j'ai quand même envie de partir, j'ai envie de le faire, mais à la fin, il n'y a rien qui vient. Comment on se sent après ça?
C'est difficile parce qu'il faut, rester, surtout quand on est en pleine saison, il faut rester concentré et essayer de faire les meilleurs matchs possibles et les meilleures performances possibles. Mais c'est compliqué aussi d'un autre sens parce qu'on pense à un départ, on se dit il faut pas se blesser, il faut pas ceci, il faut pas cela. Donc c'est vraiment une situation vraiment très 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 compliquée pour un joueur. Après, quand moi le conseil que je pourrais donner avec la petite expérience que j'ai eue, c'est tant qu'il y a pas d'offre, faut rester concentré et jouer à fond quoi. Faut jouer à fond et voilà.
On a tendance à ne pas jouer à fond justement quand on attend les offres parfois.
Et ça, je pense que c'est l'erreur. Ouais. C'est l'erreur.
Toi, tu n'as jamais fait cette erreur-là?
Non.
Non?
J'ai toujours joué à fond.
Ok.
J'ai toujours joué à fond.
Mais justement, vu que tu es resté longtemps à Charleroi, est-ce qu'il y a eu un moment où tu aurais pu partir? Est-ce qu'il y a eu une offre ou est-ce qu'il y a eu justement cette situation-là qu'on...
Je pense qu'il y a eu des moments où il y a eu. il y a dû avoir des offres. Mais.
On ne l'a pas dit.
On ne l'a sûrement peut-être pas dit. Et donc, ça ne s'est pas fait. Mais le moment où je sentais vraiment ou que je pouvais partir, c'était un moment où avant mes croisés au Standard. Et je pense que c'était vers le mois d'octobre et 2-3 mois après, je pense que au mois de janvier, j'aurais pu partir mes croisés.
Ça pardonne pas.
Ouais, ça pardonne pas. À cette époque-là, j'avais 28 ans. Et je pense que c'était un bon moment parce que je faisais vraiment un beau début de saison.
C'est intéressant. D'ailleurs, on part maintenant sur les moments forts de la semaine et on va parler forcément des Zèbres. Le Sporting Charleroi qui peut souffler, les amis, après avoir été mené 1-0 à Courtrai en première période. Les Zèbres, eh bien, ils se sont rapprochés du maintien grâce à un but d'Achraf Dari dans les dernières secondes. Que retenir de cette victoire in extremis du RCSC, mon cher Thomas?
Alors, moi, en termes de contenu, j'ai pas retenu grand-chose, si ce n'est qu'il y avait quand même un peu plus de fluidité, que Zorgan avait retrouvé quand même une certaine confiance en lui. Le fait qu'il soit capitaine, qu'il a été décisif, je pense que ça va être bénéfique pour Charleroi. Mais ce que je retiens surtout, c'est le discours d'après-match de 2000 dans son interview. Et c'est là où il a mentionné le fait que son objectif premier en arrivant, c'était de recréer un groupe, de retrouver la confiance et comme il disait le fait qu'ils sont revenus à 1-1 et qu'ils ont gagné le match en fin de rencontre, ils auraient pas réussi si ils n'avaient pas justement recréé un groupe. Et il remarque justement que l'équipe reprend de la confiance, et je pense que c'est le plus important pour cette équipe de Charleroi avec l'objectif maintien. Bon, là je pense qu'il y a plus de doute, je pense qu'ils vont se maintenir, mais c'est vraiment ce discours de 2000 qui m'a interpellé, parce que justement l'objectif c'était de recréer, de reformer un groupe, et je pense qu'il a réussi.
Tu sens un groupe de nouveau en confiance, Francis?
Oui, je sens un groupe de nouveau en confiance, c'est bien. C'est je suis déçu pour Felice, parce que moi je pense que c'est pas de sa faute.
Non,
je pense que l'équipe est malade depuis quelques années déjà. C'est pas depuis l'arrivée à Felice. Quand il est arrivé, déjà il les a un peu ressorti un peu de la tête en dehors de l'eau. Donc c'était un peu compliqué. Moi, ouais. Je suis déçu pour lui, parce que c'est vraiment quelqu'un de bien, un très bon coach. Et déçu que ça lui arrive, que ça soit à son image un peu, qu'il soit entaché par cette mauvaise période. Mais moi, je pense que l'équipe souffre depuis déjà, déjà depuis 2-3 ans déjà. Déjà l'année dernière, c'était compliqué, et elle souffre depuis déjà quelques années. C'est pas cette année. Cette année, vraiment, c'était vraiment l'année où c'était vraiment visible. Voilà.
C'est intéressant. Je me permets de t'interrompre, parce que ici, on a bien souvent eu l'analyse. Beaucoup disaient, non, mais c'est quelque part un peu le côté ronflant qu'amenait Felice Matsu, qui amène ces résultats mauvais. Toi, justement, tu prends le parti de dire non, mais en fait, le problème, il était déjà là avant, quand Felice n'était pas là. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond. Est-ce que tu peux diagnostiquer ce mal? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as derrière la tête quand tu dis ça?
Ce que j'ai derrière la tête quand je dis ça?
Ouais.
Attention à ce que tu dis.
Non, c'est intéressant, parce que où est-ce que tu veux en venir fondamentalement? Est-ce que c'est un problème de qualité de joueur? Est-ce que c'est un problème de structure de l'entreprise? Est-ce que c'est un problème inhérent à l'ambiance, au professionnalisme? Tout peut être dit.
L'entreprise est bonne. L'entreprise est bonne. Le club est bien. Tout est bien. Les supporters sont bien. Je pense que à un moment donné, Charleroi, c'est une équipe, c'est différent. Quand on joue pour Charleroi, on met d'abord les tripes avant les qualités. Donc, il y a peut-être cet héritage-là qui a peut-être mal été assimilé par certains, qui aujourd'hui, ils sont en train de l'assimiler dans les play-downs. Ils sont en train de comprendre qu'est-ce que c'est de jouer pour Charleroi. Charleroi, le supporter, il va te dire en premier lieu, mets d'abord tes tripes sur la table et après, on verra tes qualités. Si tu fais ça, Charleroi, tu seras le roi du monde. Même s'il ne voit pas tes qualités et que tu es un bon joueur de foot, si tu te donnes à 200%, il va pas t'incriminer pour ça, le supporter de Charleroi. Donc là, ils sont en train de comprendre la mentalité Carolo, ce que le public Carolo recherche. Et logiquement, ils gagnent des matchs.
Ouais.
Ils gagnent des matchs et ça se passe plutôt bien. Et en fait, ils vont prendre un plaisir à gagner comme ça. Parce qu'après, tu prends un plaisir à gagner comme ça.
Mais je vois vers où tu vas aller, parce que je pense qu'à ton époque, quand ton équipe marchait très bien du côté de Charleroi, c'était aussi des joueurs du championnat belge, des joueurs qui connaissaient le championnat, des joueurs belges, des joueurs français. Il y avait un groupe qui connaissait vraiment le côté Carolo, cette mentalité-là. Mmh. Et là, le recrutement ces 2-3 dernières années, il est très ciblé sur des joueurs, je ne vais pas dire exotiques, mais qui viennent de championnats un peu par-ci par-là, qui connaissent pas, et je pense que c'est peut-être là où le problème se situe, c'est que les joueurs, quand ils arrivent, ils connaissent pas la mentalité Carolo, ils connaissent pas le championnat belge, ils ont du mal à trouver leur chemin. Regarde Dabag, il vient du Portugal, Stulic, il vient de Slovénie ou des pays là-bas, on attaque.
Tu cibles le manque d'identité.
Ouais, je pense que ça doit être ça, et il y a un manque de mentalité Carolo. Je pense qu'il a vraiment raison dans ce qu'il dit.
Après, ça veut pas dire que les joueurs sont pas bons, les joueurs ont des qualités.
Oui, c'est exactement ça, tout à fait.
C'est des bons joueurs, mais l'identité Carolo, c'est spécial, mm-hmm. comme tu le dis.
C'est comme au standard, en fait, on a le même problème.
Voilà, mm-hmm. c'est le même problème au standard. Voilà.
C'est intéressant.
C'est un problème d'identité.
Alors, l'identité, ok. Par contre, le problème de jeu, je suis désolé, j'étais devant mon match. Alors, fort heureusement, il y avait la Zapette, il y avait Aston Villa, il y avait Leverkusen qui jouait le titre. C'était très bien, on avait deux footballs complètement différents. D'un côté, on avait l'impression que c'était Galactic Football, et de l'autre, que c'était quasiment la Marelle. Mais c'est la vérité. On s'est quand même ennuyé dans ce match, Xavier. Oui. On va se dire les choses. Le rythme de jeu, l'intensité, ce qui est mis en place, etc. Ça gagne au forceps à la dernière seconde sur un but d'Achraf Dari. Il sait pas comment elle a mis sa tête, mais il a mis au fond. Il y a aussi, à un moment donné, un manque dans le jeu qui est une base hyper importante dans le fond qui va devoir être résorbée. Parce que, ok, là maintenant, c'est important d'aller chercher les trois points, etc. Mais fondamentalement, le Sporting d'Anderlecht doit, du Charleroi, Sporting d'Anderlecht, on va y venir, doit faire mieux.
Oui, c'est sûr. Après, faut pas oublier que tu parles des équipes qui sont 13, 14, 15, 16 du championnat. Donc, faut pas s'attendre à,
Mais si je dis ça, c'est que je pense que Charleroi peut aller au-dessus.
Mais clairement.
Oui, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup d'arrivées et tout ça. C'est un groupe qui a pas forcément tous la mentalité Carolo, comme on a dit. Faut le temps qu'ils assimilent. Peut-être qu'un Stulic ou Adabak, peut-être qu'année prochaine, vont être meilleurs buteurs du championnat. Enfin, j'exagère peut-être, mais le temps d'adaptation, ils parlent certainement pas la langue, alors que quand tu ramènes que des Français ou des Belges, ben tout le monde parle la même langue, c'est plus simple d'adaptation. Tous ces petits points-là font que, et puis à Charleroi aussi, j'en ai déjà parlé lors d'une émission il y a quelques mois, il y a eu énormément de blessés cette année.
Ouais, c'est vrai,
J'aimerais bien savoir les 11 qui jouaient samedi ou dimanche, enfin quand ils ont joué, est-ce qu'ils ont déjà joué, ils ont joué combien de matchs ensemble depuis le début de la saison? Et les automatismes et tout ça, ça se crée au fil de la saison. Donc ok, cette année c'est une année difficile, les 2-3 années précédentes également. Mais peut-être que le fait d'avoir un peu moins de blessés, que tout le monde commence à jouer ensemble, tout le monde s'adapte ou autre, c'est peut-être un mal pour un mieux l'année prochaine ou les saisons qui viennent, toi.
Francis, pas facile de s'adapter quand on est en étranger, qu'on arrive au Sporting Charleroi. Je t'ai vu opiner du chef quand Xavier parlait de ça. Pas facile?
Pas facile. Par exemple, Christian Benavente qui est arrivé, qui a mis 2-3 saisons à s'adapter. Donc à l'époque, quand il est arrivé, il parlait que anglais et espagnol. Donc il a mis 2-3 saisons à s'adapter et à rentrer dans le moule. Et après, quand il est parti, c'était parti, quoi.
C'était plus fluide.
Excellent.
Mais c'était un bon joueur. Mais c'était le seul. Après, autour de lui, il avait une base franco-belge, quoi.
Voilà, exact.
Il avait une base franco-belge. Donc, ça a été plus facile pour lui de s'adapter. Par exemple, Stergos Marinos parlait français. Ravi Martos parlait français. Donc c'est des joueurs qui ont fait des belles saisons et sont imprégnés de la mentalité, de l'identité du Sporting de Charleroi. Mais je pense que le Sporting Charleroi, la direction a très bien compris là où ils avaient pêché. Et je pense qu'ils vont, ils sont assez intelligents et ils vont rectifier le tir.
L'année prochaine, ce sera différent. On l'espère en tout cas pour le Sporting Charleroi qui a fait quand même un très très grand passage pour le maintien. 3 points hyper importants à Courtrai. Beaucoup ne les imaginaient pas prendre ces 3 points-là, mon cher Thomas. Quand on a vu la façon dont Courtrai a terminé en trombe avec une victoire au Sporting d'Anderlecht, la phase classique, il y avait quand même de quoi être inquiet parce que c'est une équipe qui, en plus de ça, a bien démarré le match et a des qualités techniques intéressantes avec un petit Abdelkadri notamment, qui est un joueur qui est capable d'aller faire la différence comme ça sur un coup de génie, quoi.
Mais les choix de l'entraîneur, je les trouve complètement différents en phase classique que maintenant en playdown. Il fait des choix assez assez étonnants, je trouve, et le style de jeu n'est plus forcément le même que lors de la phase classique. On remarque qu'il joue sur la défensive, qu'il a peur de prendre des risques, et je pense que ça va jouer en la défaveur de Courtrai. J'ai un peu peur pour eux, alors que sur papier ils ont, comme tu dis, ils ont une très belle équipe. Après, il y a eu les blessés des Japonais qui font très mal aussi, parce que cette stabilité défensive qu'ils avaient retrouvée après le mercato d'hiver avec Fuji et Tsunoda, c'était incroyable. Les deux, ils les ont perdus en cours de route. Et j'ai peur pour eux.
Allez, place maintenant forcément au derby bruxellois. On va parler du Sporting d'Anderlecht contre l'Union Saint-Gilloise. La question est très simple. Après sa victoire dans le derby bruxellois, les Mauves sont-ils en tête parce qu'ils sont tout simplement plus forts ou parce que l'Union Saint-Gilloise a explosé en vol? Thomas.
La deuxième partie de ta phrase, elle est parfaite parce que L'Union, c'est la descente aux enfers. C'est incroyable de prendre 0 point depuis le début de ces playoffs, alors qu'ils n'avaient quasiment pas perdu dans ce championnat. Et pourtant, contre Anderlecht, ils auraient pu gagner cette rencontre. Parce qu'après le 1-0 de Dolberg, je suis désolé, hein, l'Union a eu les occasions pour marquer. Nilsson, il touche la barre. Puertas, il rate deux grosses occasions. S'ils avaient marqué ces occasions-là, je pense qu'ils auraient remporté ce match, mais on dirait que le sort s'acharne sur eux et que, je sais pas, la Belgique ne veut pas que l'Union soit champion chaque année.
Moi, je pense
que
c'est de leur faute.
C'est fou. Oui, bien sûr que c'est de leur faute, ça, je suis complètement d'accord. Et même plus particulièrement la faute de Blessin, parce que ses choix, je les trouve quand même assez douteux aussi, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Je comprends pas vers où il veut aller. Juste avant les playoffs, il jouait avec un Rasmussen qui était vraiment incroyable les derniers matchs avant le début des playoffs.
Et on
le
voit magnifique à Fenerbahçe d'ailleurs.
On le voit plus du tout. Et ça, je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. On dirait qu'il joue aussi un peu trop dans la défensive et qu'il veut plus prendre des risques offensifs. Donc j'ai un peu du mal à comprendre vers où il va là.
Moi, je pense que c'est plus en dehors du jeu, des choix de blessing, je pense que leur préparation physique est mauvaise. Et ça fait 3 ans qu'ils font les mêmes erreurs. Quand tu regardes une équipe du top qui veut jouer, par exemple Bruges, quand il était 3 fois champion d'affilée, tu sais que ta préparation physique, ton pic de forme, il doit arriver janvier, février, mars, parce que tu as un match important contre tes concurrents directs. L'Union, toutes les années, ça fait 3 ans, leur pic de forme, c'est octobre, tout ça. Ok, ils prennent 3 points contre Westerlo au début de saison. Et fin de saison, contre tes concurrents directs, tu prends 0 sur 6. Début de saison, tu t'en fous de perdre 3 points contre des équipes plus faible entre guillemets. Si fin de saison, t'as les ressources physiques pour prendre 6 sur 6 face à des concurrents directs. Et l'Union, toutes les années, ils font la même erreur. Il y a un moment, faut le comprendre. Ouais. Un club qui joue le maintien, je peux comprendre que début de saison, c'est important de prendre beaucoup, beaucoup de points. Mais un club qui veut jouer le titre, tu t'en fous de perdre des points début de saison. C'est à la fin que tu dois les prendre. Et eux, toutes les années, ils font la même erreur. Il y a un moment, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux.
C'est ça? Inexpérience, naïveté?
Je sais pas, après 3 ans, est-ce que tu peux dire inexpérience? Je sais pas, naïveté, sûrement. Mais inexpérience, après 3 ans, quand ça fait toutes les années que tu as la même erreur, tu peux pas dire inexpérience, tu vois ce que je veux dire?
Non, mais je comprends, moi je te pose la question, je dis ça parce que, à un moment donné, Francis, on a un peu l'impression que c'est l'espèce de poids lourd qui est tombé sur leurs épaules et qu'ils se sont complètement écrasés. Est-ce qu'ils ont étouffé sous la pression? Est-ce que c'est possible d'étouffer comme ça avec un 0 sur 9 autant?
Oui, c'est possible. Comme il a dit, la préparation est très importante. Et c'est là que Bruges est très fort. Parce que Bruges, ils ont vraiment une endurance dans le championnat phénoménale. Déjà, à notre époque, ils l'avaient. Là, ils l'ont encore. Bruges, on les croit toujours un peu perdus. Ils naviguent dans des places où on ne sait pas un peu. Et au dernier moment, on les voit. Et là, ils sont à 2 points de la première place. Ouais. Et ils vont peut-être prendre le titre. Ils vont jouer jusqu'à la fin. Donc, je pense que la préparation est importante. Et comme il a dit, il a très bien relevé, le pic de forme doit être aujourd'hui, à ce moment-là, au moment des playoffs. Mais pas en octobre, novembre, et de prendre des points. C'est maintenant, fighting spirit.
Je trouve ça intéressant parce que là, tous les trois, vous avez 1000 curseurs sur l'Union Saint-Gilloise. Il n'y en a pas un qui m'a parlé du Sporting d'Anderlecht et de la qualité du Sporting. Vous trouvez tout simplement que le Sporting n'est pas suffisamment bon que pour pouvoir aller chercher le titre? Le premier qui c'est vrai que j'ai désigné personne.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais le souci, c'est qu'en dehors d'Anderlecht, si l'Union s'était bien préparée pour les playoffs, on n'aurait pas cette question-là, en fait. Voilà. Le souci, c'est qu'Anderlecht, maintenant, contre l'Union, t'aurais mis, enfin, comme tu vois, ils ont pris 0 sur 9. T'aurais mis presque n'importe qui face à l'Union. Vu qu'ils sont cramés, tu prends les points. C'est pas forcément Anderlecht qui a été bon. C'est juste qu'Anderlecht, il est plus ou moins bien préparé. Que aussi, ils jouent de mieux en mieux par rapport au début de saison. Donc, eux, ils ont quand même bien préparé leur saison. Ouais, c'est plus l'Union qui a mal préparé sa saison que Anderlecht qui était là. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, parce qu'Anderlecht n'a pas forcément été très très bon lors de ce match non plus. Je les ai pas trouvés, bien, enfin ils étaient bien dans leur match, mais c'était pas fou. On les a déjà vus meilleurs que ça, et face à Bruges aussi, ils étaient pas forcément bons. Mais je sais pas, ils ont la chance du champion, je pense, et je pense que ce sera pour eux.
Voilà, c'est ça, même à 10 contre 11, s'il faut.
Ouais, c'est ça, mais pour moi Anderlecht a été cohérent dans sa saison au même titre que Bruges, quoi. Ils sont montés crescendo, et là ils arrivent à un moment où il montre le vrai Anderlecht.
Mais c'est peut-être aussi une question de rythme, Francis, parce que quand le rythme collectif, qui n'est pas le même que le rythme de l'état de forme d'un joueur, tu sais, c'est comme en cyclisme, je veux dire, à un moment donné, les cyclistes, ils se préparent pour les classiques, pour le Tour de France, etc. Il y a des joueurs qui sont rythmés pour être performants pendant les playoffs. Par exemple, au Sporting d'Anderlecht, on a des mecs comme Anders Dreyer, comme Kasper Dolberg, qui ont une grande expérience au niveau international et qui sont capables de faire ce qu'on appelle en italien il salto di qualità, J'ai déjà dit souvent dans cette émission, je le dis tout le temps, mais ça veut dire, c'est vraiment important, c'est-à-dire que quand tu as besoin de lui, lui il arrive, balle au pied, il te fait la différence, il le fait. Alors qu'à l'Union Saint-Gilloise, c'est un moteur entier, c'est un rythme, c'est une soupape, c'est le dynamisme même de toute de l'aérodynamique d'une F1, tu vois ce que je veux dire? On est sur un collectif qui est hyper performant et qui doit être à 100% tous ensemble, imbriqués au même moment dans la même énergie. C'est beaucoup plus difficile à gérer qu'un joueur qui peut ne passer à côté de son match, et puis à un moment donné, qui fait un exploit de fou et qui te permet d'aller chercher les points. C'est peut-être là que le Sporting d'Anderlecht fait la différence, grâce à ses individualités.
Parce qu'ils ont des individualités de top qualité.
Non, mais l'Union les avait aussi avant.
L'Union, les, c'est vrai. C'est vrai, l'Union les a aussi.
C'est plus une équipe, l'Union.
L'Union, c'est plus...
Mais Amoura, Puerta Estes, ils t'ont sauvé combien de matchs depuis la saison?
Oui, mais ensemble, ils l'ont fait. Et là, aujourd'hui, ils essaient de jouer ensemble et ça ne fonctionne plus. Donc non, pour moi, je suis complètement d'accord avec ce que Sacha a dit. L'Union, c'est une équipe et Anderlecht, c'est des individualités et ils ressortent bien en ce moment et c'est ça qui paye aujourd'hui.
Ils ressortent au bon moment parce que les grands joueurs ressortent au bon moment. Alors, donc là, c'est le bon moment.
Alors nous justement, on a eu l'émission au bon moment. Le jour avant le tournage, on a appris la grosse blessure de Thorgan Hazard, ligament croisé, 8 mois sur le côté, saison terminée, pas de fin de play-off forcément et pas d'euro. Est-ce que la blessure de Thorgan Hazard peut empêcher le titre d'Anderlecht?
Ah, franchement, moi je pense que oui. Mais ils ont quand même cette chance de champion. Ils sont dans le flow, ils ont vraiment le truc là. Je pense qu'ils peuvent, on va dire, à 70% prendre le titre. Mais le fait que Hazard se blesse maintenant, ça change beaucoup. Bon, Amouzou est revenu, donc
voilà. Et t'as Vascaren qui revient bientôt aussi.
Ouais. Mais après, voilà, il y a Amouzou qui est là, mais Vascaren, il va bientôt revenir aussi. Mais après, à part Amouzou, je sais pas qui tu pourrais mettre sur le côté gauche. Imaginons.
N'était pas d'accord, hein, Xavier. Il a dit non.
Bah, Vascaren, moi, je pense, pour prendre le poste. Il serait meilleur au poste de Hazard que dans l'entrejeu où on le met pour le moment.
Ouais, après, Vascaren, je sais pas où il faut le mettre parce que c'est tellement compliqué. Mais comme on parlait d'individualité, Thorgan Hazard, c'est une grosse individualité, c'est un gros joueur. Ils ont été le chercher pour être champion. Là aujourd'hui, il sera plus là. Bon, il y a peut-être plus beaucoup de matchs, mais pour moi, ça peut être un facteur décisif.
Alors que de l'autre côté, et on va y venir forcément, le club de Bruges est en train tout simplement de cartonner. Il se passe quelque chose du côté du club de Bruges. Vainqueur jeudi contre le PAOK Salonique 1-0. Vainqueur ce week-end 3-0 face au Royal Antwerp Football Club. Qu'est-ce qui a permis aux Blauwenzwaard de libérer leur football comme ça, Thomas?
Bah franchement, c'est très compliqué à analyser, mais je pense que le fait que Deyla soit parti, c'est peut-être été une libération pour certains joueurs. Même je trouvais, quand on voyait Deyla aux interviews avant et après match, tu ressentais pas la passion comme il avait au Standard. Tu voyais qu'il y avait peut-être une cassure avec le groupe et le coach. Et là, Nicky Hayen, comme on le disait la semaine dernière avec Julien Gorius, il met les joueurs au bon poste et ça marche très très bien. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Skoras, on l'enlève plus un. Je veux rien savoir. Hein. Il reste dans l'équipe. Hein. Non, mais on remplace pas un Skoras en ce moment en très bonne forme pour un Skovelsen qui est meilleur sur papier. J'espère vraiment qu'ils vont pas faire cette erreur-là. Parce que là, encore la semaine dernière, j'avais parlé de lui. Mm-hmm. Il a marqué son premier but en GPR Pro League. Et je vous dis, c'est pas le dernier.
Et Nicky Hayen est en train tout simplement de prendre beaucoup, beaucoup plus d'épaisseur dans le chef et de considération aussi dans le chef des dirigeants du club de Bruges. 43 ans, à d'intérim, il fêtera son cinquième match à la tête du club de Bruges jeudi prochain. Qui s'attendait à ce que Nicky Hayen, l'entraîneur du club Next en U23, vienne comme ça et permettre justement au club de Bruges de se restructurer, de recréer un engouement? Parfois, le football, ça se joue à ça. Ça se joue à un fifrelin, Francis.
Oui, ça se joue à ça. On le voit aussi en France, Pierre Sage qui le fait avec Lyon.
Exactement.
Qui arrive et qui remobilise tout le monde et qui arrive à jouer presque l'Europe, la finale de la Coupe en France. Et Nicky Hayen fait la même chose. Ça veut dire que c'est des bons coachs, qu'il y a des bons coachs aussi qui entraînent chez les jeunes et qui sont capables d'entraîner chez les pros.
C'est cette culture-là que tu mets en avant concernant le club de Bruges. Tu en parlais tout à l'heure. Le club de Bruges, quoi qu'il arrive, ils sont jamais morts. C'est-à-dire qu'ils peuvent être un peu moisis au début de la saison, moyens. On se dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la saison, il y a une crise, machin, bazar. L'entraîneur viré. Derrière, ils arrivent à prendre des décisions assez drastiques très rapidement. Ils cassent dans le dur et tout de suite, ils se remettent en avant parce que ils veulent et ils doivent performer. Ça a toujours été comme ça depuis ton époque joueur.
Le club de Bruges, au même titre que Anderlecht, a toujours aussi des top joueurs. Donc, à un moment donné, il ressort toujours au moment prévus qui doivent ressortir. Donc là, c'est le moment où il faut jouer le fighting spirit, et ils sont là au bon moment. Van Aken sera toujours là dans le championnat.
C'est
tellement un bon joueur que ils vont ressortir à un moment donné. Club de Bruges, même s'ils sont pas bien, ils vont revenir. Ils vont revenir tout le temps.
Est-ce que ce serait pas actuellement la meilleure équipe du championnat?
Si, clairement, dans le jeu, de ce qu'ils proposent, etc., c'est incroyable. Par contre, ce qui est marrant, ce que tu dis, c'est que c'est les joueurs, les individualités, pardon, ils doivent revenir au bon moment. Et maintenant, c'est bon moment parce qu'on est dans les playoffs. Mais quand on regarde un Thiago, par exemple, il marquait à flot il y a quelques mois, et là, il ne marque plus du tout. Ouais. Mais par contre, c'est un joueur très important pour le collectif de cette équipe. Sans lui, ils n'ont pas cette animation offensive qu'ils ont aujourd'hui.
Oui, j'étais relativement rude à son égard en Coupe d'Europe, mais quelque part, c'est aussi parce qu'il a été totalement différent. L'impact collectif d'un Igor Thiago dimanche n'est pas le même que celui qu'il a eu jeudi. Ça repose quand même beaucoup sur le travail défensif d'un mec dont vous n'avez pas encore parlé, mais Raphaël Onyedika, quand il est à 100%, alors que Ronny Deyla disait de lui qu'il n'avait pas le niveau. Il n'avait pas le niveau. C'est-à-dire qu'il l'a dit publiquement, Raphaël Onyedika n'a pas le niveau. Donc pour moi, je le mets pas titulaire. C'est le meilleur joueur dans le milieu de terrain du club de Bruges actuellement.
Ouais, mais il s'entraînait peut-être pas de la même façon. Enfin, toi, peut-être que le fait que le coach ait été viré, il y a dans la tête d'Onyedika, il y a peut-être eu un déclic aussi, toi.
C'est ce que je disais. Je pense qu'il y avait une cassure avec le groupe et que, par exemple, Onyedika ne s'entendait pas forcément avec Deyla. Et moi, je pense qu'on a un peu surestimé Deyla en tant que coach. Et aujourd'hui, on voit ce que ça donne, parce que le club de Bruges est justement la meilleure équipe du championnat actuel.
Ouais, beaucoup pensaient qu'il était surcoté, en fait. Ronny Deyla, au final, c'est en train de donner raison, clairement. Mais Raphaël Onyedika, encore une fois, doublé face au Sporting d'Anderlecht, penalty provoqué, forcément qu'Igor Thiago rate derrière face au PAOK, et le but pour ouvrir le score face au Royal Antwerp Football Club. C'est un numéro 6, hein.
Ouais, après, c'est un profil défensif, c'est ça qui est fou, quoi.
C'est vraiment un joueur qui, moi, je trouve absolument impressionnant. Il a reçu son bon de sortie. Il devrait quitter le club cet été. Quelque part, tout tombe au bon moment. C'est jackpot pour le club de Bruges, hein. Ils ont toujours une scoumoune, mais incroyable, pour avoir les joueurs qui tombent et qui performent au bon moment, pour derrière pouvoir aller faire ding-dong. Ça y est, c'est 15 millions d'euros.
Mais c'est incroyable. Le lundi, ils ont dit bon de sortie pour Onyedika. Il marque deux buts contre Anderlecht. Un penalty pour Bruges contre PAOK, et là ils remarquent. Bon, là c'est sûr qu'ils vont le rendre assez cher, et tant mieux pour eux. Et ils ont déjà été chercher leur remplaçant. Donc
Thomas, tu sais que Francis a un grand point de commun avec toi. Il a fait des études également de management dans le football.
Okay, je savais pas.
Comment est-ce qu'on explique ça, toi qui as fait forcément des études au niveau business, au niveau stratégique? Comment est-ce que toi tu analyses justement la manière dont fonctionne le club de Bruges, qui paraît à chaque fois tomber, prendre des décisions au bon moment, et au niveau managérial, paraît quand même être un grand club de foot, quoi.
Ils ont une bonne cellule de recrutement, déjà. Une très très belle cellule de recrutement. Ils arrivent à trouver le profil parfait qui va performer dans leur équipe et qui vont pouvoir revendre à un bon prix. Et ils arrivent à remplacer aussi très très bien. Donc je pense que le club de Bruges travaille vraiment très 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 bien au vu des transferts, tous les derniers transferts. Ces dernières saisons.
Et il y a notamment un de tes compatriotes, Geoffrey Mancada, directeur sportif du Milan AC, qui a mis l'œil sur un data scouting analyst du club de Bruges et qui souhaiterait le rapatrier à Milan. Donc même, tu vois, au niveau du mercato, il y a aussi du recrutement qui se fait à ce niveau-là, et on repère les talents en disant, regarde ce mec-là, il a fait ces choix-là, c'est grâce à lui que le club de Bruges a acheté, par exemple, Skoras. On parlait de Skoras, par exemple. Je vais aller le recruter au Milan parce qu'il a du talent. Donc même chez les Belges qui sont recruteurs, ils peuvent se les faire shipper, entre guillemets, mais le talent est reconnu, quoi. Donc, non, le club de Bruges, ça travaille vraiment très, très bien. Et quelque part, c'est un petit peu la différence avec tous les autres clubs en Belgique. C'est quand il faut casser dedans et prendre une décision brutale pour partir vers l'avant. Je vois pas d'autres clubs capables de faire ça.
Ouais, clairement. Ils sont vraiment terre à terre, direct. C'est très bien géré. Un peu trop business à mon goût, parce que je trouve que le côté familial,
il y a une grosse froideur.
Ouais, le côté familial qu'on connaissait très bien au club de Bruges est en train de disparaître, on va pas se mentir.
Ouais.
Mais côté recrutement, infrastructure, tout ce qu'on veut, c'est le top en Belgique, il y a rien à dire.
C'est l'effet Nicky Hayen, ce Bruges qui va mieux?
Bah oui, je pense, parce que comme je disais, pour moi, on en a parlé aussi, Deyla, c'était le problème, et tu ressentais vraiment qu'il y avait un truc, une cassure entre le groupe et Deyla. Et on le voyait au standard, Deyla, c'était le top coach, le meilleur coach de Belgique, si ça là. Mais au final, on l'a un peu trop surcoté, le petit Deyla.
Ouais. Après, alors, on a mis aussi beaucoup de pression fort médiatique. Tu vois, quand Deyla, quand il est arrivé au standard, c'était pas dire un inconnu, mais toi, il entraînait à New York, il est arrivé en Belgique, personne ne le connaissait. C'était un entraîneur comme un autre, toi.
Ouais, mais il avait fait le Celtic, par exemple, et ça avait pas forcément.
Ouais, voilà. Et ici, quand on l'a transféré du standard à Bruges, Deyla, toute la pression médiatique était sur lui. Genre, ah, c'est le meilleur coach, ouais, Bruges, toi. T'as toute cette pression-là, peut-être aussi des trucs en interne ou autre. Alors que Nicky Hayen, au final, on a mis un coach, personne le connaissait entre guillemets. Ouais. Il peut faire son travail tranquillement. Limite, on s'en fout des entraînements. Enfin, et au final.
Ouais, lui, c'est
ça aussi qui fait que.
C'est la chance de sa vie, lui. Hayen, c'est la chance de sa vie, là.
Il veut la saisir.
Ouais, voilà, il veut la saisir. Il a déjà été entraîneur à Beveren à l'époque. Il devait les sauver. Je pense qu'il n'avait pas réussi. Il s'est retrouvé au Club Next. Là, maintenant, ça a très bien fonctionné. Il a reçu sa chance maintenant au Club de Bruges avec l'équipe première. Ça marche bien. Mais je pense pas qu'il devrait le garder pour la saison prochaine. Je pense qu'il devrait quand même passer à autre chose. Et t'en parles tellement souvent sur Twitter, Van Nistelrooy serait une très belle option.
Ah, mais c'est pas moi qui étais en soirée à Gand le jour avant le match. Hein. Il était à Gand, 40 minutes de voiture. Moi, je sais qu'on lui a posé la question. Il a dit non, je suis pas là pour Bruges.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Et il n'y a pas de fumée sans feu, effectivement, Van Nistelrooy. Carole Gerhardt également, qui fait partie de cette fameuse shortlist. À Bruges, on me dit, on prend notre temps. On n'est pas pressé.
Ouais, voilà.
C'est ce que Bruges me dit.
Voilà. Ouais, le championnat se terminer, ils verront bien.
Voilà, en rappelant évidemment que Bart Vrag avait eu quelques discussions par des intermédiaires avec Van Azebroek aussi, qui, je vous le confirme, quittera à la fin de la saison le KA Gent. Donc ça, c'est une info que je peux vous donner aussi. Messieurs, vous êtes prêts? On passe au Crack la Fraude?
Yes, on passe.
Allez,
à ça.
C'est parti pour notre séquence découverte, le Crack la Fraude, évidemment, qui sera le joueur ou plutôt l'événement mis en avant, ou alors justement celle qui sera rabaissée. On le sait avec Thomas, il n'y aura pas de nouvelle fraude, c'est l'arbitrage belge. Le pénalty avec Zeno De Bast, là encore une fois prouvé, c'est exceptionnel.
Ça c'est mérité.
C'était vraiment devant, donc pour le coup, pour moi, c'est un coup. Et ça. Connaissant un peu le caractère de Bast, je pense que c'était volontaire, mais ce qui m'a choqué ce week-end, c'est pas le pénalty, hein. C'est la carte rouge pour Vermaelen, les deux jaunes
c'est un sketch. C'est pas une décision, ça c'est un sketch.
Ça veut tout dire, c'est pour ça que
l'ego du mec pour venir mettre un deuxième jaune comme ça. Non, mais tu l'as vu la séquence ou pas, Francis?
Oui, bien sûr.
C'est très grave.
Bien sûr.
Tu dis, est-ce qu'à un moment donné, tu as vécu des situations pareilles, ou est-ce que tu comprends ou tu arrives à concevoir qu'il y a des arbitres qui pètent un câble à un moment donné? Parce que lui, il a pété un plomb.
En fait, avec la VAR, c'est compliqué de péter un câble comme ça, quoi.
Ben oui.
C'est
pour tout ça le monde le voit.
Même cas que toi. Pour moi, la fraude, c'est un
arbitrage. Ah oui, mais c'est, en Belgique, c'est catastrophique.
Pas qu'en Belgique.
Ouais, mais c'est le pire. Franchement, je peux te dire, c'est le pire.
Si tu vois le carton rouge sur Les Melou contre Lyon.
Je l'ai pas vu les images encore. Ouais.
C'est lui la victime et c'est lui qui prend en rouge.
Ouais, c'est assez incroyable. J'avais vu les images. C'est vrai que ce match entre Lyon et Brest avait fait beaucoup parler. Victoire forcément de l'Olympique Lyonnais 4-3 dans les dernières secondes sur penalty de Maïtan Lyles. Donc ça n'arrive pas que chez nous, Xavier. Ça arrive partout.
Ça arrive partout.
Il y a toujours des trucs. Mais là vraiment c'était très clownesque. Hein.
Ah oui non mais
c'était
façon,
très clownesque.
Cet entraîneur, j'ai vu faire ses débuts. C'était à Moucron à l'époque en D2. Moucron Lommel, dès son premier match, j'avais compris que c'était vraiment pas un arbitre de haut niveau. Non, mais vraiment, je vous promets.
Ah, tu l'as repéré de loin,
non, mais vraiment. Ouais. À chaque fois que je le vois dans un match, mais je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fout là encore là, lui?
Ouais.
C'est fou. Enfin bref, on va passer à autre chose parce que j'en peux plus.
Bah, on va passer au crack, tout
vas-y,
simplement.
C'est mieux.
Le crack de Xavier.
Non, moi, cette fois-ci, j'ai pris une fraude, malheureusement.
Ah, bah, alors, on va passer à la fraude de Xavier.
Bah, moi, c'est Wendal, le défenseur latéral de l'Antwerp.
Oui.
Je trouve qu'au début de saison, bah, déjà,
pas
fou, donc je comprends pas pourquoi ils ont envoyé Vines, ils l'ont renvoyé au MLS et ils ont pris Wendal, parce que bon, au final c'est kiff. Mais
je sais pourquoi, je pense.
Bah début des playoffs, ils prennent rouge, ils réagissent bêtement pour Thorgan Hazard, donc déjà là c'était limite. Encore ici, le premier goal que l'Antwerp encaisse, c'est de sa faute, parce que quand tu vois la faute qu'il va faire sur Van Aken,
c'est vrai.
Aucune utilité, puis derrière coup franc, tu prends 1-0. J'ai l'impression que il réfléchit pas trop sur le terrain et qui porte peut-être à préjudice et qui met vraiment l'Antwerp pas mal dans ses playoffs, qui voulait peut-être se relancer dans les playoffs et au final ils perdent le premier match des playoffs à cause de lui. Ici, je vais pas dire que c'est à cause de lui, mais en tout cas il les met bien à mal aussi, donc ça plus ça plus ça, ça fait déjà 3 matchs sur 10 et Voilà.
Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que ce n'est pas que Wayne Wendal. Ça, c'est une situation qui va transpirer d'une situation collective où ça va mal du côté du Royal Antwerp Football Club. Il y a plusieurs joueurs qui ont été payés en retard. Il y a des vrais problèmes de liquidité au sein du club depuis que Paul Gijsens a décidé de ne plus mettre un euro. Faut rappeler qu'Owen Wendell, il est arrivé pour suppléer un joueur qui est parti pour 14,4 millions d'euros bonus compris. Donc, du côté de l'Ajax Amsterdam et qui a été quelque part échangé. Ouais. Enfin, c'est une espèce de bonne opération. On sait le filon néerlandais qu'il peut y avoir du côté du Royal Antwerp FC. Ça va mal. Et ce club, et dans ces performances-là, notamment individuel, bah en fait ça se ressent tout simplement quoi. Ouais, c'est un club qui est...
C'est étonnant parce que juste avant les playoffs, je les trouvais vraiment bons et je pensais vraiment qu'ils auraient été candidats au titre, mais là bon là c'est hors course complet. Mais pour venir à mon crack à moi, c'est aussi un arrière gauche, mais d'une autre équipe parce que malheureusement je peux pas le mettre en crack. Mais c'est pas forcément un joueur qui a été décisif ce week-end, mais c'est pour sa régularité des dernières semaines et je trouve que c'est potentiellement le meilleur latéral gauche qu'on ait actuellement dans notre championnat. C'est Augustinsson.
Ok.
Il est franchement très impressionnant, très important pour cette équipe d'Anderlecht. Pour moi, au début on avait été le chercher par l'intermédiaire de Séville, truc danois, si ça là. Mais je trouve qu'il a complètement sa place et pour moi c'est le meilleur latéral gauche actuel en Belgique.
Anderlecht qui essaye tout simplement de lever l'option, en tout cas de trouver un accord parce que c'est un prêt sans option d'achat hein, pour lequel il était arrivé en provenance du FC Séville, pardon. Il y a une volonté de la part du sporting.
Ils ont raison. Ils ont raison. Ce qui est très bon.
L'acquérir définitivement. Francis, crack et fraude.
Pour moi, mon crack en Belgique, Anderlecht. Anderlecht, pour moi, ils ont fait une très très belle opération ce week-end contre l'Union, ce qui peut les rapprocher du titre tant attendu depuis tant d'années pour voilà.
35e titre national pour le Sporting d'Anderlecht, s'ils y arrivent, ce serait incroyable. Ils viendraient un petit peu, remettre un petit coup de drapeau sur le dernier flambeau qui était celui de la saison 2013-2014. Tu étais joueur, tu connaissais ce Sporting-là.
Oui, voilà.
Tu vois beaucoup de différences, tu vois beaucoup d'évolution entre ce Sporting-là et celui de cette saison.
Anderlecht a eu une période un peu blanche toutes ces années-là, entre le dernier titre et aujourd'hui. Et là, ils sont en train de retrouver, je pense, leur valeur d'antan. Donc, une différence, non, parce qu'ils ont des aussi bons joueurs qu'à l'époque, je pense.
Et ta fraude, alors, tu as dit, c'est l'arbitrage belge, c'est ça?
L'arbitrage.
Oui, il est avec moi.
L'arbitrage, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble sur la fraude. Magnifique. Moi, j'aime beaucoup j'en ai déjà parlé, mais je vais me répéter, le petit Fernandez Pardo.
Ça fait
plusieurs semaines que ce petit me...
Incroyable.
Il m'enjaille. Voilà, on va dire les choses comme ça. Il me fait vraiment très plaisir. Il a un très, très bon coup de pied. Il a beaucoup, beaucoup d'audace, surtout.
Pour son âge.
Hein. Il a du culot, ce gamin. Il a vraiment du culot. Il est capable de faire des différences. Il n'est pas du tout dans une position préférentielle, dans une espèce de 9,5 borderline où il a beaucoup de liberté, mais en même temps, il n'a pas vraiment de position attitrée. Tu vois, ça peut ne pas être facile, mais lui, il joue de ça en disant, tu vois, c'est bien. Je vais montrer ma personnalité sur le terrain et je vais aller au mastic. Franchement, il est impliqué quasiment dans toutes les occasions de but de Gand dans le match face à Louvain. Il est impressionnant. Encore un talent. En plus de ça, est un belgo-espagnol. Ça va nous rappeler Carrasco, ça va nous rappeler Alessio Castromontes. C'est bien, ça fait plaisir de pas voir uniquement toujours le même type de talent, quoi. On a un talent bien différent là, ici, avec des qualités qui sont bien propres. Et surtout, ça peut devenir un joueur cerveau. Et vous savez à quel point ça m'intéresse.
Clairement, mais je suis content que tu repars de lui, parce que j'ai parlé de lui, je pense, il y a un mois et demi, quand il avait fait son entrée contre l'Union.
Ouais.
C'était mon crack, alors qu'il avait joué que 20 minutes. On voyait direct que c'était un joueur qui avait des qualités. Là, il enchaîne les titularisations. Certes, ici, il a été un peu malheureux contre Louvain quand même, parce qu'il a raté 4 grosses occasions. Il aurait pu mettre un doublé, voire un triplé, mais c'est un excellent joueur. Et je reviens aussi sur ce que j'ai dit il y a quelques semaines aussi. Je t'en avais parlé, je sais pas si t'étais au courant, mais il devait partir normalement au mercato d'hiver. Il y avait des clubs de division 2 espagnols qui étaient sur lui, finalement ça s'est pas fait. Il a reçu sa chance de Van Azebroek, et peut-être que c'est ça aussi le fait qu'il devait partir, finalement il a reçu sa chance, que ça fait peut-être un effet bénéfique pour lui, et c'est très bien.
Emilio Ferreira, instigateur de sa mise en avant par Ayn Van Azebroek, grand ami Ayn Van Azebroek, directeur de l'académie du Karakent, l'a beaucoup mis en avant, a beaucoup travaillé sur son dossier. Je sais que c'est parfois, on me dit souvent, c'est pas facile de travailler avec Emilio, mais les talents, il sait les repérer, on se rappelle, Sambi Lokonga, Alexis Salomakers, c'est grâce à lui. Hein. C'est grâce à lui. Donc encore une fois, il arrive à avoir le bon œil. Pourquoi pas un beau, je dirais, un bel avenir pour Fernandez Pardo. Oui. Wait and see, en tout cas. Wait and see, évidemment, c'est votre rubrique dédiée, comme d'habitude, au bruit de transfert. Cette semaine, une petite correction sur l'info Sporting Lisbonne Zeno de Bast. On vous donnera plus de détails. Il y a également du Christ Makoso. Et alors, on fait notre headline sur Jeff Rennes-Adelaide. Vous verrez, on a pas mal de choses à dire sur l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Francis, merci.
Merci à vous.
C'était un bonheur.
M'avoir invité.
T'es toujours la bienvenue, sache-le.
Ça fait plaisir.
C'est un vrai plaisir, vraiment. C'était super et c'est génial d'avoir pu parler de football avec toi. On te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses dans ton futur, qui se déroulera plutôt du côté du business football, mais on n'en dira pas plus pour le moment. Tu reviendras quand tu veux pour nous en parler avec avec détail. Mais voilà, tu es venu apporter beaucoup de belles énergies en noir et blanc pour le Sporting Charleroi. On espère évidemment que on espère évidemment que le Sporting se maintiendra pour le plaisir aussi du football au Malon, mais en tout cas, ils sont en train de le faire. Donc voilà, merci beaucoup Francis.
Merci à vous pour l'invitation.
Thomas, merci beaucoup.
Avec plaisir, hein, comme d'habitude.
J'ai dit en néerlandais Thomas.
Thomas van der Meer.
Thomas van der Meer. Ouais. C'est écrit. Merci beaucoup. La semaine prochaine, tu es avec nous ou pas?
Non, ce sera pas moi.
Ce sera Quentin qui nous rejoint pour accompagner Xavier, à qui, évidemment, je vais faire un gros bisou au chat et un petit bisou au bébé aussi. Magnifique. Et à vous aussi, on vous fait un gros bisou. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. La semaine prochaine, un nouvel invité. Vous l'entendez, ça sonne, ça veut dire que c'est terminé. On se voit très très vite à mardi prochain avec encore un super invité. Ciao, ciao.